peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, t'es le Rhin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour. C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons semaine après semaine autour de ces chroniques qui ont pour thème le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et moi-même, tous les mercredis, les samedis et les dimanches à 12h30 sur CFM Radio. Évidemment, Jean-Yves.
Ah ben le cheval, c'est à tous les moments, à tous les instants et tout le temps.
Alors Jean-Yves, si nous prenions le cheval au mot, pour commencer cette émission, un remède de cheval, qu'est-ce que c'est au fond un remède de cheval?
Ah ben c'est un remède de pleine d'énergie, c'est très générique parce que les remèdes avec les chevaux, hein, on faisait autrefois, quand un cheval commençait à être fatigué, on faisait une prise de sang et on leur enlevait beaucoup de sang. Donc le cheval est capable d'avoir une température très 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 élevée et de s'abaisser très très rapidement. Donc tous les remèdes étaient efficaces. Dans la mesure où ils étaient employés souvent et fort.
Alors c'est vrai que je me souviens moi-même, donc ça remonte pas à 107 ans, et toi évidemment, qu'il y avait certains traitements qui étaient un petit peu rudes. Par exemple les embrocations déjà, donc qui permettent de soigner les tendons d'un cheval, des tendons qui se sont un peu abîmés, donc qui chauffent la partie inflammée du tendon. Mais aussi les pointes de feu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pointe de feu justement?
Ben, les pointes de feu, c'est du feu qu'on donne, une chaleur qu'on applique sur le tendon et qu'on brûle.
Alors c'est ça, c'est un espèce d'appareil qui chauffe très fort avec une pointe un petit peu large et on perfore la peau et l'os du cheval.
Voilà. Puis on employait la liqueur de vilate aussi pour les échauffements de fourchette, parce que la fourchette c'est quand même un endroit important pour le cheval. C'est le coussinet qui permet de faire l'irrigation du sabot. Donc il fallait qu'elle fonctionne bien, qu'elle marche bien. Et la fourchette souvent c'était avec du vitriol et de la graisse d'oie. Ça c'était les remèdes anciens.
Ah oui, tout à fait. Et je me souviens aussi que les vétérinaires utilisaient, ou les maréchaux ferrants utilisaient pour enlever les surdents, tu sais, ces petites dents qui se forment sur les dents et qui abîment les joues du cheval à l'intérieur.
Le parada, on appelait ça.
Voilà, une espèce de rabot, et généralement le cheval, c'était effrayant, on lui mettait un écarteur pour qu'il garde la bouche ouverte, et l'action de ce rabot généralement dérapait, et le cheval était complètement saigné par la bouche tellement il était esquinté. Maintenant, ce sont des dentistes hein, spécialisés pour les chevaux, qui font ça de façon plus tranquille, si je puis dire.
Eh oui.
Alors, tu sais que cette expression aussi, on l'utilise nous, par exemple, j'ai dû prendre un vrai remède de cheval pour soigner ma grippe. C'est-à-dire que, bon, il fallait absolument que je me soigne et j'ai pris un médicament très, très actif.
Il y avait un remède qu'on donnait souvent aux chevaux qui étaient asthmatiques et qui étaient poussifs. La pousse, c'était le cheval qui a du peine à respirer. Qui était asthmatique, c'était l'arsenic.
C'était l'arsenic, oui, absolument. Donc, à dose homéopathique, quand même.
Bien sûr,
l'arsenic
petite dose.
Est un sacré poison, voilà. Et je remarque que tes chevaux, toi, tu les soignes beaucoup avec les plantes. La reine des prés, le gui, voilà.
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis pour les produits naturels.
Voilà. Alors, est-ce que ce que tu leur donnes, c'est un remède de cheval ou au contraire, un remède beaucoup plus soft, on dirait?
Mais c'est un remède de cheval quand on augmente la capacité, la quantité. Bon, il faut y aller franchement, quoi. Et puis, mais faire attention quand même de ne pas aller au-delà.
Pas aller au-delà. Donc, être prudent dans le maniement de ces remèdes, même les soins vétérinaires par les plantes. Ouais. Alors, cette semaine, nous allons évoquer la cavalerie militaire européenne au XVIe siècle. C'est en effet, et nous le verrons, une période de transition significative. Alors pourquoi? Parce que l'ancienne féodalité disparaît tandis que le pouvoir royal s'impose partout en Europe. Alors le coût de l'armement, particulièrement les armes à feu, puisqu'elles apparaissent, devient trop élevé pour que la noblesse puisse s'en équiper. Et c'est cette réalité qui apparaît dès la deuxième moitié du XIVe siècle et se généralise rapidement. C'est-à-dire que les nobles, sauf les très grandes familles, ne peuvent plus avoir plusieurs chevaux de guerre qui coûtent cher et surtout acquérir l'armement et surtout l'armement à feu, plus la cuirasse, etc. Tout ça revenait extrêmement cher. Et donc c'est en quelque sorte les pouvoirs royaux qui prennent cela en charge.
Un chevalier, autrefois, avait pour lui personnellement à sa disposition, comme les Templiers d'ailleurs, quatre chevaux personnels qui était aidé, il était aidé, entretenu et par les écuyers, bien sûr.
Oui, oui, c'est ça. Et ça représentait un cheval sans, sans son armement, enfin son carapaçon cuirassé, la cuirasse de l'armure du chevalier et l'armement, ça représentait le revenu annuel d'un domaine qui faisait 250 hectares. Ah, donc oui, on imagine un petit peu les coûts de cela. Et un seul cheval.
Coûtait très très cher.
Donc si on rajoute le sommier, le destrier,
pour la lance,
etc.
La lance, c'était l'unité tactique, oui, du chevalier. Il y avait le froid, il y avait le sommier, il y avait le courtier, il y avait la hackenée, il y avait plein de types de chevaux.
Voilà, donc on imagine un petit peu les budgets que cela faisait, et les nobles, les très grands nobles, avaient du mal à pouvoir se payer tout cela. Alors c'est à la fin du XVe siècle, la cavalerie française formait les deux tiers des troupes, et ça va très vite, 30 ans plus tard, elle n'en forme plus qu'un dixième par rapport aux fantassins. Même chose pour la cavalerie espagnole, où la proportion qui était d'un cinquième tombe à un douzième. Donc c'est vraiment une réduction drastique des troupes à cheval. Et une raison à cela, à l'exemple des fantassins suisses, dont l'efficacité sur les champs de bataille impressionne, les armées européennes se dotent de grandes formations de soldats à pied disciplinés, comme les fameux piquiers espagnols particulièrement redoutés, qui foutaient la trouille à l'Europe entière.
Mais à l'époque napoléonienne, quand même, avait beaucoup intensifié sur la cavalerie.
Voilà, effectivement, tu as tout à fait raison.
C'était son fer d'attaque et son fer de lance.
Tu as tout à fait raison de le dire. D'une certaine façon, Napoléon est reparti dans l'autre sens pour prendre des cavaleries vraiment de choc.
À ce propos, j'ai quelques mots à dire, puisque à l'époque de Napoléon, la puissance émane des passades furieuses, inspirées des figures guerrières des troupes napoléoniennes. Et tout d'un coup, l'action exalte la vitesse enivre, la hardiesse subjugue, l'insolence séduit. Ces exercices développaient des qualités humaines qui convenaient aux bons combattants. Dès lors, tout leur était permis. Témérité, bravoure, vaillance, intrépidité, effronterie.
Exactement, voilà une très belle description. Alors, revenons donc à notre XVIe siècle. Les stratèges militaires comprennent la nécessité de réorganiser les armées. La cavalerie, jusque-là autonome, est souvent un peu brouillonne. On l'a vu sur certains champs de bataille, en particulier Crécy, et de fait incorporée au sein des troupes à pied afin de combiner l'action des différentes armes.
Sous Napoléon, elle est très 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 codifiée, la cavalerie.
Ah, tout à fait. Voilà.
Le prince Murat, oui, dont la propriété n'est pas très loin d'ici, dans le Lot, qui a été le général en chef et qui était un cavalier remarquable.
Alors, un cavalier remarquable, extrêmement hardi. Alors, revenons donc à notre XVIe siècle. L'armement du cavalier s'adapte aussi, évidemment, avec ses nouvelles missions. Donc, il abandonne la lance, la hache, la masse d'armes, mais également l'épée. Et il dispose dorénavant d'une arquebuse modernisée, c'est-à-dire allégée, avec un système où la mèche ne s'éteint pas, puisque le coup partait grâce à une mèche en amadou, qu'il peut utiliser à cheval, c'est-à-dire il peut tirer à l'arquebuse à cheval, alors qu'avant c'était forcément à pied. Et puis plus tard, on l'arme avec des pistolets. Alors les actions deviennent plus rapides et plus décisives, et un maréchal de l'époque, enfin du XVIIe siècle, constate que, il s'appelle Monsieur de Tavannes, que le combat de cavalerie qui durait autrefois 3 ou 4 heures et ne tuait pas 10 hommes sur 500 est devenu très meurtrier. La victoire se décide en moins d'une heure. Donc on voit effectivement une puissance de feu et une combinaison entre les gens à pied, les fantassins et les cavaliers qui rendent effectivement la cavalerie avec des effectifs réduits extrêmement, extrêmement redoutables.
À l'époque de Mandrin, les cavaliers aussi avaient des pistolets.
Des pistolets
qu'ils employaient avec une gaine de chaque côté des épaules du cheval et qu'ils employaient à cheval, tirés à cheval.
Ah oui, tout à fait. Les fameux pistolets d'arçon, en fait, que l'on appelait.
Voilà.
Alors, à part les compagnies de gendarmes qui restent donc toujours à cette période, qui restent composées de gentilshommes, la cavalerie légère est presque uniquement formée au début du XVIe siècle avec des domestiques peu aguerris, avec les domestiques peu aguerris des nobles. En fait, ce sont les valets qui deviennent cavaliers. Alors, c'est pas très efficace, évidemment. Ce sont des gens qui n'ont pas appris vraiment à monter à cheval, donc ce sont pas des très bons combattants.
C'était des servants.
Les servants, voilà, c'est cela.
Ils servaient.
Voilà, c'est cela. Les servants, les valets. Et alors, on se tourne alors vers un mercenariat spécialisé, et en particulier les fameux reîtres, ce qu'on appelle reîtres en français, qui vient de l'allemand Reiter, qui veut dire cavalier. Et le problème avec les reîtres, c'est que ces mercenaires se louent au plus offrant et par la femme même change souvent de camp. Donc c'était un petit peu compliqué, y compris en cours de bataille.
Hein. Ah ben ça, c'était aussi. Voilà. C'était comme ça qu'opéraient les routiers aussi. Ils se louaient, ils louaient leurs services.
Voilà, c'est cela. C'était et ils ne faisaient pas de sentiments, hein, je veux dire.
Bien sûr, non, c'était l'argent qui comptait là.
Et alors. Petit point assez intéressant que j'ai trouvé, parce que si par le passé les suivants d'un chevalier, donc qui étaient des pages en formation, arboraient les armoiries du chevalier, la troupe, dès le XVe siècle, portera la livrée, ce vêtement distinctif est pareil pour tous les hommes d'une même compagnie, et c'est l'ancêtre de l'uniforme militaire.
Mais ça existe encore dans les courses.
Et ça existe encore dans les courses, absolument, avec les Kazakhs. Alors Jean-Yves, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission après une pause musicale du flamenco gitan aujourd'hui. Tio Gregorio El Borico chante No Puedo Comprenderte, c'est une alegría.
Olé!
Alors, la leçon de l'écuyer, Jean-Yves, cette leçon, toi, écuyer, que tu nous distilles semaine après semaine et qui est toujours tellement intéressante. Alors, tendre son cheval et le cadencer, qu'aurais-tu à dire là-dessus, Jean-Yves ?
Ben, tendre son cheval, c'est l'athlète qui est là, qui, est un peu, qui sommeille un peu et qui a besoin d'être réveillé, quoi. Il faut qu'il aille faire, qu'il fasse des choses, donc il faut qu'il prépare son corps, et il faut se tendre, c'est-à-dire se réveiller, et puis agir, et être attentif. Prêts y parat, c'est la devise des comtes de Toulouse. Prêt, attentif, paré, toujours prêt, aussi. Donc il y a cette notion de tension, le corps est en éveil, tout fonctionne bien, on écoute, on entend, on sent, on respire, et on est prêt à fournir un effort.
Mais alors, tendre son cheval, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, le crisper.
Ah non, ça ne veut pas dire le crisper, ça veut dire le réveiller, le rendre attentif.
Le rendre tonique, en quelque sorte.
Pratiparati, voilà, oui, il doit être attentif, comme dans l'arrêt immobilité, c'est ça. Le cheval est tendu, mais il est entre la jambe et la main, il est prêt, attentif, et à la moindre sollicitation, il part, ou il va en avant, ou il va en arrière, ou il va par côté, c'est une boule. Elle est prête à bonder, elle est prête à rouler.
Alors justement, je voudrais évoquer un cheval que tu as eu, qui a été ton grand cheval, je dirais ton cheval de guerre, si tu en as eu d'autres et que tu en as encore qui sont extraordinaires. J'aurais voulu que tu nous parles un petit peu d'Ivanhoé.
Ah ça a été mon premier cheval, Ivanhoé. Le cheval sans peur et sans reproche. Il était né dans le Lot. Il est fils de la terre du Lot, parce que moi je crois à la terre beaucoup. La terre fait l'homme et elle fait le cheval. Dans des endroits calcaires, les chevaux ont de l'os, ils sont solides, ils sont bien trempés. Voilà, c'est ce que recherchaient autrefois les gens dans le cheval. Quatre bons membres, de manière à ce que ce soit solide, et beaucoup de crainte pour le, faut pas qu'ils craignent tout un tas d'intempéries. Alors voilà, Ivanhoé est sorti du Lot. Ça a été mon premier cheval. Je l'ai eu tout jeune, il était poulain. Et je l'ai élevé, je l'ai éduqué. Et il a été fantastique. Il m'a amené partout. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et pour moi, ça a été
à la fois un élève, mais un maître d'école
un élève
aussi.
Un maître exceptionnel.
Voilà. Alors, tu pourrais nous rappeler, c'est un barbe ou c'est un lusitanien?
Non, c'était un fils du pays.
Un
croisement d'anglo avec du barbe.
Le croisement, voilà. Et alors, la couleur de sa robe,
hein. Alors, il était baie.
Il était baie, d'accord. Et puis, alors, il y a une histoire qui court. Alors, tu me diras si c'est du délire ou si c'est la réalité, que ce cheval était formidable parce que tu lui avais appris à chercher les champignons.
Ben, ce cheval, il faisait tout. C'est pas compliqué. Ce cheval, il faisait tout. Il faisait le concours hippique, le concours complet, le dressage, la haute école. Il tirait la langue, il parlait au micro, il allait chercher le chapeau que je lui envoyais, comme après le cheval que vous avez connu.
Estoc, oui, bien sûr.
Enfin, il était merveilleux. C'était un compagnon, c'était mon compagnon, je pouvais le lâcher, il me suivait absolument comme un chien. Et effectivement, quand je partais aux champignons, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cèpes, il y en a toujours encore quelque peu, mais enfin, ils sont très recherchés actuellement. Et puis, il y a des gens de partout qui viennent en voiture, il y a des colonnes de voitures maintenant, et c'est très difficile. Il faut se lever très tôt pour pouvoir trouver des champignons maintenant. Mais alors, avec lui, je partais avec un sac tyrolien, et j'allais chercher les champignons. Et alors, bien souvent, eh ben, le cheval s'arrêtait dans le bois. Je ne comprenais pas, je regardais à droite, je regardais à gauche, effectivement, je voyais le champignon, il l'avait vu avant moi. Alors, je ne sais pas s'il avait senti, parce que champignon, ça sent aussi, ou s'il avait vu, mais il s'arrêtait devant les champignons.
Alors, c'est extraordinaire, Jean-Yves, parce que je me souviens de cette période, j'étais en stage chez toi, à l'école d'équitation de Salmiège. Et tu nous disais, oh, ça y est, allez courir dans les bois, là, pour vous détendre, et vous verrez, les champignons sont sortis. On n'en trouvait pas un seul, évidemment, parce que, bon, concurrencé par Monsieur Jean-Yves Bonnet et Ivanhoé, on n'avait aucune chance, mais ça, tu nous l'avais pas dit, par contre. Ça n'est que plus tard qu'on l'a su.
Mais ça a été un compagnon merveilleux qui a enthousiasmé tous les gens qui l'ont connu. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire ma première télévision à Albi, où j'étais le champion du Rouen. Je me battais contre le champion de la province à ce moment-là, qui était Jean Sandras. Et donc, on avait comme mission et comme
allons pas d'aller chercher les champignons, quand
non,
même.
Non, pas du tout, mais d'attraper un veau au lasso.
Ah,
alors
oui.
Donc, il fallait pouvoir agir avec le lasso, et le cheval devait tendre, et j'avais gagné. Mais malheureusement, j'avais perdu le casque. Après, donc, il y avait eu une histoire terrible entre Zitrone et Guilux. Ils s'étaient fâchés. Paris Match, on avait repris le truc. Et ça a été ma première télévision, mon premier contact avec la télévision française. Voilà, il n'y en avait qu'une à cette époque-là.
Alors, tu sais, Jean-Yves, que bon, beaucoup de cavalières et de cavaliers commencent leur apprentissage dans un poney club. Et là, on a Élise avec son poney Lutin. Et elle est un petit peu ennuyée parce que Lutin s'est montré le week-end dernier au cours de la reprise très, très cabochard. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Élise me dit, impossible de le garder sur la piste. Il coupait les tournants, essayait toujours de rejoindre le centre du manège. Ou alors, il refusait de garder la distance et venait bourrer contre la croupe du poney de devant.
Oui, mais là, ça s'explique parce que,
alors, qu'est-ce que
un cheval qui
Élise,
double et qui s'arrête au milieu du manège a compris qu'au milieu du manège, on faisait la bulle et on n'avait pas d'effort à faire. Alors que quand on est sur la piste, eh ben, il faut justement se tendre, s'exercer et faire un effort. Alors, quand il a pu rentrer au milieu, il l'a fait. Ce qu'il faut, c'est l'obliger par son impulsion à soi, son énergie à soi, à l'amener sur la piste et à le garder sur la piste en tendant un peu la reine extérieure du côté du mur, et puis le garder sur la piste et lui faire les trois allures sur la piste.
Voilà.
Et ne pas le laisser rentrer comme il veut à l'intérieur.
Merci Jean. Et ben voilà, j'espère que Élise appliquera tes conseils. Alors on passe à l'agenda. Ce dimanche 19 juin à Mont-Laur, à côté de Sainte-Afrique, une grande foire aux chevaux est organisée. Dans une ambiance bodega, les éleveurs vous présenteront leurs chevaux, leurs poneys, mais aussi leurs ânes. Cette journée sera animée par de nombreux spectacles et qui sait, vous découvrirez peut-être à cette occasion le cheval de votre rêve, de vos rêves. Et il est possible de se restaurer sur place. Alors, le vendredi 1er juillet prochain, la nouvelle route du sel s'élancera de Vendargues dans l'Hérault pour amener le sel le samedi 9 juillet à Salmièche en Aveyron. Alors que vous soyez cavalier, adepte de l'attelage, marcheur, trailer ou vététiste, la nouvelle route du sel qui fête cette année son quart de siècle d'existence vous fera traverser les garrigues languedociennes, le Causse du Larzac et les monts du Lévézou. Dans des paysages variés mais toujours grandioses, vous découvrirez des villages intacts dans ces territoires qui furent un des hauts lieux de l'histoire des Templiers et des Hospitaliers. Deux grands spectacles équestres et musicaux seront donnés, le premier à Vendargues, ville départ, et le second à Salmièche à l'occasion de, l'arrivée de la route du sel le 9 juillet en soirée. Vous pouvez vous inscrire pour une étape, plusieurs étapes ou pour la totalité de cette randonnée. Alors pour renseignement, contactez le 06 83 01 96 04 ou le 06 03 43 76 74. Et vous pouvez également consulter le site, alors en minuscule RTEDUSEL 2011/yahoo.fr. Enfin, le samedi 16 juillet à Méjane en Camargue se tiendra au domaine Paul Ricard la 31e Feria du Cheval. Cette journée débutera par un concours équestre, les Étoiles de Méjane, avec Vincent Liberator accompagné de 15 cavaliers venus de toute la France. Alors à 10h30, inauguration d'une expo photo, à 11h à Cossoy des Ribots avec la participation de deux grands toreros, Juan Bautista et Serra Riron. À 15h, grand spectacle équestre, plus de 80 chevaux ibériques et camargués, 21 artistes vous feront découvrir le travail, le cheval qui travaille en liberté, la voltige, mais également le dressage en haute école. Et tous ces spectacles sont gratuits. Hein, je répète, tous ces spectacles sont gratuits. Enfin, l'après-midi s'achèvera par un hommage aux cavaliers de l'apothéose, que sont Raphaël et Angel Peralta, José Samuel Lupi et Alvaro Domecq, suivi à 18h par la corrida du Rejon d'Or. Alors, les réservations se font au 0 891 70 03 70 ou par internet www.arène@arles.com. Le dicton du jour. Alors Jean-Yves, j'ai trouvé ce dicton, moi, qui m'intéresse beaucoup. Quand ton cheval ne comprend pas ce que tu veux lui faire faire, c'est souvent parce que toi-même, tu ne l'as pas compris.
Absolument. Il faut bien comprendre les choses et tout s'explique en équitation avant de pouvoir demander quelque chose à son cheval. Il faut être maître de soi. Donc voilà, deux recherches importantes. Recherche de soi, connaissance de soi, maîtrise de soi et maîtrise du cheval. Conséquence.
Donc c'est ce que tu appelles aussi la main intelligente et la jambe intelligente. C'est pas simplement c'est le cerveau, mais c'est aussi le corps en entier.
C'est l'intelligence des aides.
Alors c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, le créateur et l'animateur de la mythique route du sel dont on vient de parler, et moi-même, vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, les mercredis, samedis, et tenez-vous bien aussi les dimanches, à 12h30, sur la même antenne, pour une nouvelle émission dédiée au cheval. Vous pouvez retrouver la totalité de ces chroniques sur le site cfmradio.fr. Merci de votre fidélité et bonne semaine à cheval.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non. Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers,
pour la retrouver. Sur la route du sel, d'Aigues-Mortes à Rodez, en passant par Salmières, du Languedoc au Rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyonne, les Vézoux, Salmiège, le milieu du sel. Patrie de Béranger, de Landore, capitale du Rouergue de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel.